France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous Octave Uzan ? Peut-être pas, hein ? Cette esthète raffinée, amie de Marcel Proust, fut pourtant une célébrité dans le Paris fin de siècle. En 1894, il fit à la Parisienne un monument de papier, une somme en forme d'apothéose, mais qui en était peut-être également le chant du cygne. Car si la femme est 100 fois plus femme à Paris qu'ailleurs, écrit-il, c'est parce que, je cite, « elle apporte dans la vie agissante une expression d'art, une sensation de nervosité, un frottis de cosmopolitisme, une allure de crânerie garçonnière, un chic pseudo-anglais qu'on ne lui avait point vu jusqu'alors. » On l'avait vu, pourtant, 10 ans plus tôt, lors du salon de 1884, où le peintre américain John Singer Sargent fit le portrait somptueux et troublant d'une beauté professionnelle, ainsi disait-on, pour celle qui se parait du beau linge des vanités mondaines. Le modèle avait encore un nom, Virginie Gautreau, avant de se dérober sous celui de Madame X. Mais quelle vision du monde se cache sous ce X, et quelle aspiration moderne à la beauté se farde sous cette blancheur diaphane. Bien, pour le savoir, allons-y voir. Éblouir Paris. Tel est le titre de l'exposition que le musée d'Orsay consacre à Sargent jusqu'au 11 janvier 2026. Mais allons-nous nous laisser aveugler par cet éblouissement ou faut-il aller chercher au revers de ce beau monde d'autres miroitements de sens et de beauté? Allons-y voir, en compagnie d'Emmanuel Retailleau et Isabelle Gadouin, bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Éléonore Chaline.
Vous êtes en train de regarder ce qui est sans doute le portrait le plus fameux, le plus connu du Metropolitan Museum. C'est un tableau qui a été acheté par le maître à John Singer Sargent en 1916. C'est le portrait de Madame Gautreau, qui est l'épouse d'un banquier parisien. Avenio, c'est son nom de jeune fille, est née à la Nouvelle-Orléans. Et sa mère, après que son père ait été tué pendant la guerre de sécession, a pensé qu'il valait mieux envoyer à Paris pour des raisons sociales, pour leur vie, enfin, pour améliorer leur... pour un mariage éventuel. Envoyer ses filles à Paris. Madame Gautreau, à 23 ans, quand elle arrive à Paris, elle est très jolie, glamorose, disons séduisante. Et elle devient très vite, grâce à son mariage, une vraie Parisienne.
C'était l'historienne de l'art Barbara Weinberg dans « Des peintres pour le Nouveau Monde », un documentaire de France Culture en 2001. Isabelle Gadouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en art et littérature britannique du 19e siècle à l'Université Sorbonne Nouvelle. On vous doit de nombreux travaux sur le romancier Thomas Hardy, notamment sur l'orientalisme victorien également. Mais vous êtes intéressée à celui qui nous réunit aujourd'hui, John Singer Sargent, à qui vous consacrez un magnifique livre qui vient de sortir aux éditions Cohen & Cohen, coécrit avec Emily Hills et Charlotte Ribérol, Sargent, Le beau monde et son revers. Vous avez aussi participé au catalogue de l'exposition du musée d'Orsay qui inaugure, écrivez-vous, une nouvelle ère de réflexion en France sur l'œuvre de ce peintre cosmopolite. Jusque-là, et en 2001 encore, on l'entendait, un vrai contraste entre sa postérité, sa célébrité aux États-Unis et ici.
Oui, tout à fait. Ce peintre américain, mais formé en France, a en fait été tout à fait ignoré par les Français pendant de longues années. Alors même qu'il est venu se former à Paris, il arrive à Paris en 1874 au moment où explosent les impressionnistes. Oui. C'est la date de la première exposition impressionniste. Il ne fait que les croiser puisque l'exposition a fermé au moment où il arrive, mais il retrouvera plus tard Monet, il aura des relations tout à fait cordiales avec Monet. Il se présente au Cocon des Beaux-Arts, il intègre l'atelier de Carolus Duran, il est donc formé par les meilleurs praticiens parisiens, il passe le concours des Beaux-Arts, il obtient une médaille de troisième classe, en fait ex aequo avec un autre candidat, ce qui signifie qu'il est classé second, il a un statut tout à fait à part à
tout
Paris.
À fait à part.
Et pourtant, les Français ne vont pas le reconnaître comme des leurs, alors que les Américains, au contraire, bien sûr, le revendiquent comme le grand peintre américain.
Précisément parce qu'il est à distance des avant-gardes. On va en parler avec vous. Bonjour Emmanuel Retailleau.
Bonjour.
Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'IEP de Lyon. Vous avez travaillé sur l'histoire culturelle de la France, de l'entre-deux-guerres, et notamment sur l'écriture de l'intime, les drogues, les sexualités, autant de thèmes qui se retrouvent dans l'extraordinaire journal de Mireille Havet, figure de la Parisienne à laquelle vous aviez consacré une magnifique biographie parue en 2008 chez Grasset. Mais à cette figure, vous avez également consacré une enquête de plus longue durée, publiée au Seuil en 2020, sous le titre « La Parisienne, histoire d'un mythe du siècle des Lumières à nos jours ». Alors, est-ce une Parisienne, cette Madame X dont on va parler, on va évidemment en discuter. Pourquoi depuis les Lumières? Parce que pour vous, ça commence à Rousseau, c'est ça, ce mythe de la Parisienne?
Oui, effectivement, je l'ai fait remonter à Rousseau, même si en réalité, on peut lui trouver des racines encore plus anciennes, hein, parce que dès le Moyen-Âge, que vous connaissez mieux que moi, il y a cette notion de fierté urbaine qui repose sur l'exaltation, tout particulièrement pour une capitale qui est une capitale royale. Donc, il y a longtemps qu'on exalte l'identité, soi-disant, supérieure des Parisiens et des Parisiennes. Mais au féminin, et se dissociant progressivement du type masculin, effectivement, ça commence véritablement à la fin du XVIIIe siècle.
Ça commence à la fin du XVIIIe siècle, mais il y a quand même un grand moment baudelairien, on va en parler avec vous. Sargent était un baudelairien d'une certaine manière, enfin en tout cas un lecteur de Baudelaire. Mais alors commençons par décrire, hein, c'est l'objet de cette émission, très grand, monumental tableau, qui est d'ailleurs à l'honneur à Orsay. Comment pourrait-on le décrire, Isabelle Gadouin, vous commencez peut-être?
Monumental, effectivement, très impressionnant. Il fait poser cette femme dans cette attitude extrêmement altière. Il y a tout un jeu sur la présentation du corps qui est à la fois frontal, mais avec cette très légère torsion de l'épaule qu'il obtient en la faisant s'appuyer sur le guéridon qui est derrière elle.
Ce qu'il faisait plusieurs fois. Enfin, c'est comme portraitiste, il l'a fait à plusieurs reprises.
Il aime beaucoup cette très légère vrille du corps qui lui permet d'insérer en fait un léger mouvement dans des attitudes qui autrement pourraient paraître un petit peu statiques. Mais ce qui est très impressionnant, bien sûr, c'est ce profil.
C'est un pur profil.
Qui est un pur profil. C'est un profil parfait, c'est quasiment un profil de médaille. On sait qu'il a... Donc ce n'est pas un portrait de commande, contrairement à ce qu'il fera ensuite beaucoup ensuite. C'est lui qui est allé chercher cette jeune américaine à Paris. Alors, on reviendra peut-être sur les origines de cette femme. Oui. Je pense que c'est un point absolument déterminant dans ce qu'on a monté un peu en aiguille comme le fameux scandale de Madame X. Mais il va la chercher parce qu'il est, je crois qu'on peut le dire, amoureux de ce profil. À défaut d'être amoureux de la femme.
Et de ce nez, très fin,
caractéristique.
Ce nez extrêmement
fin, très droit, qui a une certaine noblesse, il y a une grande pureté de traits, ce menton également assez fin. Il a énormément travaillé la silhouette de Virginie Gautreau avant de la peindre au musée d'Orsay. On a toutes sortes de dessins préliminaires.
Et ce qu'on voit d'ailleurs, oui, ce qu'on voit sur ces études préparatoires, excusez-moi de vous couper, Isabelle Gadouin, c'est que la touche n'est pas la même. C'est-à-dire que, justement, sur le tissu, dans d'autres portraits, il est plus virtuose, plus léger, plus rapide. Là, c'est vraiment très spectaculairement léché. Et au fond, Emmanuel Retailleau, il y a d'abord ce contraste étonnant, hein, entre cette robe vraiment très noire et cette peau vraiment très blanche.
Oui, absolument. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent ici. D'abord, le fait qu'elle ne porte aucun bijou, ce qui est peut-être, j'en sais rien, mais un élément du scandale, parce que...
Elle a une alliance.
Oui, elle a une alliance, mais rien au cou, rien au poignet.
Oui.
Et ce qui pourrait peut-être suggérer qu'elle elle s'est habillée au saut du lit, ou qu'elle n'est pas encore complètement habillée, ou voilà. Par ailleurs, on notera, ce qui est étonnant pour l'époque, l'extrême simplicité de la tenue. Il y a quelque chose d'atemporel dans ce fourreau noir qu'on peut imaginer en velours, compte tenu du rendu.
Taille de guêpe.
Alors, taille de guêpe, de toute évidence, elle a un corset, mais elle a aussi une poitrine assez généreuse, soulignée justement par ce bustier assez plongeant. Et c'est la période où justement le noir devient chic. C'est plus seulement la couleur du deuil ou la couleur des petites ouvrières qui ne veulent pas se tacher, mais c'est une couleur, c'est une non-couleur d'ailleurs en l'occurrence, que l'on peut arborer en soirée. Mais je ne suis pas sûre qu'une femme du monde de 1884 sortirait dans le monde, justement, ou dans un salon, exactement habillée comme ça. Il y aurait probablement plus de parure ou un petit mantelet sur les épaules ou quelque chose. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi le caractère un peu provocateur.
Autre indice, de cette audace très sexualisée, son oreille. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur très rose de cette oreille?
Ah oui, alors vous faites bien d'attirer mon attention là-dessus. J'avais pas spécialement remarqué ce détail, mais c'est vrai que c'est notable.
Isabelle.
Et peut-être qu'Isabelle sur ce détail.
Il est absolument... Bon, les critiques vont se concentrer sur la question de cette couleur de la chair,
peau,
en fait,
venir,
qu'il représente comme délibérément. Vous avez parlé de Baudelaire et de la passion de Baudelaire pour le maquillage. En fait, il se trouve que Sarah Jones est aussi absolument fascinée par ces femmes fardées. Vous avez là le portrait de sa Carmencita. Chez Carmencita, c'est même encore plus
Alors, Carmencita,
frappant,
on voit vraiment...
L'impression qu'elle porte un masque blanc. Et donc, il a vraiment volontairement travaillé cette carnation pour en faire quelque chose comme une sorte de présence marmoréenne, en fait. Il écrit à son ami Vernon Lee, écrivaine de la fin du 19e siècle, et il fait allusion à cette peau en parlant de la teinte du papier buvard, entre le mauve et le gris vert. il le compare également, il a un certain recul par rapport au modèle qu'il fait poser, il le compare également au cachet, aux pastilles de chlorure de potassium, ou de chlorate de potassium, je ne sais plus. Donc il veut jouer sur ce contraste, en fait, clairement, sur le contraste entre le noir de la robe et le blanc de la peau. Il est extrêmement perfectionniste et c'est lui qui choisit. Quand il fait poser ses modèles, il choisit les vêtements, il choisit les fonds. On sait qu'il a éclairci le fond à la dernière minute. Et donc, il joue vraiment sur ses contrastes.
Et l'oreille, et la narine.
J'arrive à l'oreille. On sait d'ailleurs, pour répondre à une question antérieure, la robe était probablement une de ses robes à tournure avec une légère traîne. Mais le choix de la pose fait qu'on ne voit pas ces éléments décoratifs. Donc, il y a une certaine simplicité de la présentation. Et effectivement, le seul endroit où se concentre quelque chose comme la palpitation de la vie, la chair, un mouvement du désir, c'est l'oreille, peut-être un tout petit bout du nez ou la touche de rouge, je reviens également, ainsi qu'avec cette bouche qui était extrêmement fine. Et c'est vrai que le contraste entre la pâleur de la chair et cette rougeur de l'oreille qui indique bien que la vie continue à palpiter là quelque part et bien sûr peut-être a été l'une des raisons pour la stupéfaction des contemporains.
Bon, alors il y a une grande sobriété, effectivement, apparemment peu de signes, une quasi-nudité. C'est un peintre savant, tout de même, Sargent, il a ce peintre cosmopolite qui est devenu peintre à Florence en regardant les Fra Angelico qui pense beaucoup à Velázquez, à la peinture espagnole, etc. Donc il y a quand même un petit bijou.
Il y a un petit bijou, j'allais le dire.
Voilà, il y a quand même un petit bijou qui est fiché dans les cheveux, qui doit dire quelque chose.
Qui évoque la Diane chasseresse. Et en fait, il n'est pas là du tout par hasard, puisqu'on sait qu'il le fait volontairement. Et à nouveau, à l'exposition du musée d'Orsay, est exposé un tableau que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui est un portrait en buste de Madame O'Connor, qui porte exactement ce même croissant dans les cheveux. Elle est beaucoup plus prude, elle est beaucoup plus pudique. Mais donc il y a, je suis d'accord avec vous, il a une parfaite connaissance de ses parfaits profils de la Renaissance italienne, de la Francesca, Piero della Francesca, etc. Donc il le fait de manière extrêmement érudite, mais en même temps en cachant ses traces. Mais là, la petite allusion à la Diane chasseresse me semble tout à fait volontaire, bien sûr.
Bon, on va en parler. On est dans un peintre de salon, plusieurs manières d'ailleurs. C'est le salon aussi mondain, mais c'est le monde, on l'a compris, de la culture, des lettres, de la musique aussi. Écoutez Dominique Morel au micro de Martine Kaufmann, c'était dans l'émission Accrochage sur France Musique en 2007.
En préparant cette émission, j'ai pisté quelques sources musicales aussi d'inspiration chez Sargent et j'ai trouvé cette grande amitié qu'il a entretenue avec Fauré, et dont il a peint le portrait qui est conservé au Musée de la Musique. Et il a introduit beaucoup Fauré dans les milieux anglais qu'il fréquentait lui-même. Et donc il a été souvent présent lorsque Fauré est venu faire un certain nombre de séjours en Angleterre. Et disons que toutes ces belles dames ou ces messieurs très élégants ont entendu de la musique de Fauré, quelquefois en compagnie de Sargent à Londres ou dans la campagne anglaise où Sargent allait les peindre.
Oui, et écoutez, c'est vrai que ces dames appartenaient au meilleur milieu anglais ou américain. On peut penser qu'elles aimaient s'entourer de musiciens. Ça participait à un certain cadre de vie, élégance de vie. Moi, j'y pense en particulier devant le portrait de Lady Agnew, qui est une châtelaine écossaise représentée avec une très belle ceinture dans les tons mauves, un pendant en cristal, et elle est devant un tissu indien ou chinois plutôt, dans une bergère Louis XVI. On peut penser que quelqu'un aussi raffiné dans le choix de ses accessoires savait aussi s'entourer de musiciens et pratiquer la musique elle-même. Il y a une espèce d'harmonie d'ailleurs musicale dans ce tableau avec le jeu des lignes dessinées par les contours du fauteuil et par l'ondulation de la ceinture nouée à la taille.
Éblouir Paris, tel est le titre de l'exposition au musée d'Orsay qui nous fait redécouvrir Sargent. Emmanuel Retailleau, une des manières au fond de sortir de l'éblouissement ou enfin en tout cas de commencer à historiciser l'effet que produit sur nous cette peinture, c'est de se souvenir justement qu'elle porte un projet, qui est le projet moderne depuis Baudelaire, et que cette histoire de la Parisienne, c'est pas seulement un mythe touristique, c'est quelque chose au fond qui engage l'idée même de beauté.
Oui, absolument. D'ailleurs, de ce point de vue, on peut un peu être surpris par le scandale que provoque le tableau en 1884, parce que pareil, on a quand même vu d'autres, hein, et sur le plan des mœurs et sur le plan artistique. Mais quand Sargent peint et expose ce tableau, la Parisienne a déjà une longue histoire derrière elle, puisque en tant que type pictural, elle émerge dès les années 1830-1840, plutôt d'ailleurs d'un point de vue illustratif, c'est-à-dire qu'elle illustre ses petites physiologie qui deviennent à la mode à cette époque, ou encore les premiers romans grand public, ou encore les articles de presse. Et c'est dans les années 1860 qu'elle devient véritablement un enjeu de peinture autour de la réflexion de Baudelaire, qui en fait un des critères de la peinture moderne. Savoir peindre la Parisienne, ça veut dire savoir peindre la femme en mouvement, la femme de la rue, la passante anonyme, qui n'est plus donc seulement une mondaine ou une personnalité qu'on peut identifier par son nom, mais une femme qui est aussi potentiellement une femme un peu équivoque, c'est-à-dire dont on ne connaît pas l'identité sociale, ou en tout cas dont l'identité sociale est brouillée. Et ça me ramène à ce tableau, parce que un des éléments du scandale, entre guillemets, c'est peut-être précisément qu'il y a quand même une légère ambiguïté sur son statut. Alors évidemment, elle est nommée, c'est une femme du monde, elle a... Voilà. Mais la manière dont elle est peinte pourrait quand même suggérer une femme du demi-monde, une courtisane, ayant une certaine... Alors évidemment, beaucoup de sensualité et une certaine liberté dans sa manière de s'habiller. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur du mythe de la Parisienne.
C'est ça, on n'est pas dans la rue avec Baudelaire, on ne cherche pas à flâner avec les passantes, on est bien au salon, mais au salon avec une ambiguïté, Isabelle Gadouin, effectivement, comme le dit Emmanuel Retailleau, sur le statut social de celle qui est représentée.
C'est exactement ça, en fait, je pense. On a beaucoup parlé de cette bretelle tombée sur l'épaule qui paraissait presque trop... Voilà.
Alors expliquez-nous, parce que le scandale, c'est que finalement, le tableau tel qu'on le voit là, c'est pas celui qui a été vu en 1884.
Exactement, il l'expose au salon avec cette bretelle, cette fameuse bretelle, un petit peu sous forme de bijou, argenté, tombée sur l'épaule. Et en fait, l'un des prétexte ou l'une des manières dont on a expliqué, à mon avis, un peu trop vite cette fameuse réaction, disons pas tout à fait un scandale, hein, mais cette réaction un peu vive face au tableau, c'est...
Qui proteste ? Ce sont les femmes ?
Bien sûr que non. Non. Ce sont des hommes qui protestent et qui la trouvent bien délurée. Et cette femme qui a l'air de se proposer, enfin qui a l'air d'être prête à faire tomber le haut de cette robe. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je pense que c'est la raison de cette mésentente, en fait, hein, entre le peintre, le tableau et le public, elle est plutôt d'ordre social. C'est-à-dire que c'est une Parisienne qui n'en est qu'à peine une. En fait, c'est une Américaine. On a du mal à l'imaginer parce que son nom est très français, mais c'est une Américaine qui vient de la communauté des planteurs de la Nouvelle-Orléans. Donc les passages d'introduction l'ont bien rappelé, hein, ils ont fait fortune dans le commerce du coton, de l'indigo, de la canne à sucre, comme les planteurs de la Nouvelle-Orléans. Et c'est après, son père s'engage pendant la guerre de sécession et est tué très rapidement en 1862, et c'est après cela que sa mère, elle perd une jeune sœur, et sa mère préfère en fait plutôt chercher exil que chercher fortune véritablement à Paris. Elle arrive, elle a environ 8 ans, elle est élevée dans une institution religieuse, hein, et c'est ensuite, quelques années avant ce tableau, qu'elle épouse un Français fortuné, très fortuné, qui a le double de son âge. Elle se marie, elle a 19 ans, il en a 40. Et en fait, je pense que la réticence des critiques envers le tableau, elle tient aussi à cela, c'est-à-dire d'où sort cette femme. Cette femme essaye de se faire recevoir dans un monde auquel, en réalité, elle n'appartient pas complètement. On voit son ascension comme une ascension qui a été favorisée par la richesse de son mari. Et le fait qu'elle tente de se faire une place parmi cette communauté lui vaut un certain nombre de quolibets. Mais il est vrai aussi que, je pense, quand on connaît l'histoire, c'est aussi une bonne occasion pour faire de bons mots. Donc, on sait que les critiques, par exemple, qui sont des critiques masculins, bien sûr, on sait que les critiques disent, par exemple, « Oh, mais c'est une copie, parce que vous savez, la peinture d'une peinture, à savoir d'une femme peinte, la peinture d'une peinture, c'est une copie. » Et donc, la presse est heureuse, bien sûr, de publier ces bons mots, et je pense que c'est plus l'occasion pour les critiques de se faire valoir en tant que critiques. Et je pense qu'ils ont la même réticence, probablement également, par rapport au peintre, qui lui-même est un peintre cosmopolite. Et donc, il y a aussi... Stephanie Herdrick, dans le catalogue du musée d'Orsay, parle carrément de racisme, en fait. Il y a aussi...
C'est là où peut-être la question de la blancheur pose un problème qui est social et politique, hein, parce que si elle est bien Virginie Gautreau, cette femme issue d'une famille de planteurs, créole, esclavagistes, créoles, elle n'a certainement pas ce beau teint. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, qui est proprement fardé, Emmanuel Retailleau, et qui nous parle de cette ambivalence fondamentale de la Parisienne dans ce monde social.
Oui, tout à fait. Alors, ambivalence, je suis d'accord avec vous, mais peut-être aussi pour une autre raison, parce que, justement, ces années 1880-1890 sont les années durant lesquelles s'installe le poncif de l'américaine comme étant incapable de maîtriser les codes de la parisianité. Mmh. Certes dotée d'un bon portefeuille, et à la fois on l'envie, on la jalouse pour cette raison, mais incapable d'acquérir ce chic de la parisienne qui est fait, selon le poncif, de ce je ne sais quoi, si difficile à maîtriser. Or, qu'est-ce que nous montre le tableau ? L'absolu chic de la parisienne. C'est ce qui va devenir donc ultérieurement la petite robe noire, mais on commence déjà quasiment à en parler à ce moment-là. Et il y a peut-être une réaction un peu outrée à l'idée justement d'avoir représenté comme un archétype de chic parisien une femme, une américaine, avec ce background quand même un peu problématique, et ça fait rejouer les critiques qu'on avait adressées à James Tissot, où il a cette fameuse série de 12 tableaux de la femme à Paris, et où les critiques ont dit, oui, mais elles n'ont pas une tête de parisienne, c'est les parisiennes de Tissot, elles ressemblent justement au modèle de Tissot, à savoir des irlandaises ou des écossaises, ou des... Voilà. Et je pense qu'il y a une réaction nationaliste aussi de la part des critiques. Nous sommes les seuls à savoir ce qu'est vraiment une femme, une vraie femme du monde, et une vraie parisienne.
Il y a quelqu'un, vous savez, ici dans cette émission, c'est Mathieu Pot-Bonneville, il est directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, et ben, il nous envoie des cartes postales.
Vous allez écrire un livre.
Un livre ? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Thank you. Cher Patrick, sorti en 1944, mettant en scène Edward G. Robinson et Joan Bennett, La femme au portrait n'est pas le plus connu des films de Fritz Lang. D'ailleurs, il ne s'appelle pas La femme au portrait. Pour en rappeler l'intrigue, à New York, le professeur Wanley se rend à son club et, sur le chemin, il tombe en arrêt devant la vitrine d'une galerie où s'expose une toile figurant un splendide portrait féminin. Retournant l'admirer dans la soirée, voilà qu'il fait connaissance de la jeune femme qui servit de modèle au tableau. Elle convie le professeur dans son appartement. Mais un autre homme y surgit, se jette sur Wanley qui le tue pour se défendre. S'engraine un scénario de film noir où croissent la culpabilité et l'inquiétude de ce couple que le meurtre a uni. Que faire du corps? L'enquête commence, l'étau se resserre quand, finalement, ouf, Wanley se réveille dans l'un des fauteuils de son club. La rencontre et ce qui s'ensuivit n'était qu'un rêve, suscité par la vision du portrait. La femme au portrait ne s'appelle pas La femme au portrait. Son titre original est The Woman in the Window, la femme à la fenêtre, ou peut-être dans la fenêtre, dans la vitre. Vitrine derrière laquelle le tableau s'expose aux passants. Vitre dans laquelle, lorsque Wanley retourne le contempler, apparaît le reflet de Joan Bennett. Ses traits juxtaposés à ceux du visage peint pour en souligner la ressemblance avant que la caméra panote pour cadrer l'actrice elle-même sur le trottoir aux côtés d'Edward G. Robinson. Il y a donc, dans l'histoire, d'une part le portrait, d'autre part son modèle. Et l'arc narratif reconduit jusqu'au point où le portrait se révèle être le modèle de son modèle, puisque c'est la toile qui aura suscité dans le rêve du professeur Wanley l'apparition de la jeune femme. Mais entre ces pôles adverses, disons entre la jeune femme de peinture et la jeune femme en chair et en os, une troisième femme survient, qui n'appartient ni exactement au monde, ni à la représentation, mais assure la circulation de l'une à l'autre. Cette femme-là, in the window, est à la fois semi-transparente et comme dédoublée. D'ailleurs, à la découvrir, Edward G. Robinson plisse les yeux, croyant un instant voir double. La femme au portrait peut être lue comme un film sur la puissance d'agir des images peintes, ou comme une méditation teintée de psychanalyse sur le désir et la culpabilité. Il me semble pourtant qu'autre chose se trouve capturée avec cette troisième femme, avec ce reflet dans la vitre autour duquel pivote le film. Un étrange pouvoir d'attraction qui, se détachant comme une fine membrane du corps qu'elle nimbe, rend l'image à la fois prenante et inaccessible, séduisante et impalpable, une sophistication magnétique et dangereuse pour laquelle, en ces mêmes années, Hollywood ressuscite le mot de « glamour ». Mot dont l'étymologie semble renvoyer au français « grimoire », donc au registre de la sorcellerie. De même, la bande-annonce d'époque du film vante une Joan Bennett « never so alluring », d'un adjectif « alluring » qui signifie « attirant », mais où l'on entend aussi le « leurre » et l'allure. Être glamour, avoir de l'allure, autant de qualités à leur prêter aux femmes comme leur pouvoir de séduction même, mais qui les piègent tout autant à la mince frontière entre leur personne et leur portrait, les assigne à demeurer in the window. Cher Patrick, 10 ans avant ce film, Walter Benjamin diagnostiquait la perte moderne de ce qu'il nommait l'aura des œuvres d'art, qu'il définissait comme l'apparition unique d'un lointain, si proche soit-il. Et si cette disparition, elle aussi, n'avait été qu'un rêve de cinéma?
Can a simple man hide a terrible secret?
Or, France Culture.
Was it all just a dream? The woman in the window.
Allons-y voir.
A haunting tale of temptation, murder, and the mind's darkest corners.
Patrick Boucheron.
Le leurre et l'allure. Emmanuel Retailleau, je pense que effectivement, ça doit vous inspirer parce que dans ces reflets affrontés des éblouissements parisiens, la femme de chair, la vraie Virginie Gautreau, elle finit par se perdre au fond.
Oui, tout à fait. Alors l'allure, c'est fondamental dans le portrait de la parisienne parce que c'est la silhouette, c'est la démarche déjà théorisée pour ainsi dire par Balzac. Mais le leurre, c'est aussi précisément ce miroitement incertain ou indécis des identités sociales qui fait qu'on peut prendre une cocotte pour une grande dame ou inversement, une petite grisette qui est mieux habillée qu'une duchesse ou qu'une touriste anglaise. Et précisément, Paris, c'est ce lieu du creuset et du délitement partiel des identités sociales clairement affirmées. Et le fait que le tableau ait été rebaptisé Madame X, sexe, en fait, même si à l'époque, il n'y a pas de connotation pornographique attachée au X, mais ça rejoint bien cette idée, précisément, que c'est une femme, c'est la femme, toutes les femmes, n'importe quelle femme, et ça joue aussi en faveur de la réputation du tableau, indiscutablement, plutôt qu'un portrait précis d'une femme précise.
Parce que le portrait, Isabelle Gadouin, il se retrouve au Met, enfin, il l'a longtemps gardé, hein, Sargent, c'est considéré que c'était son chef-d'œuvre. Il l'a longtemps gardé, il s'est fait photographier avec lui dans son atelier.
Oui.
Et donc ça devient Madame X, parce que pour le modèle, ça se passe mal quand même.
Il l'a protégé quasiment comme si c'était un enfant qu'il essayait de garder par-devers lui. Alors, effectivement, au moment où, au salon de 1884, le portrait est montré, il s'intitule Madame Trois Petites Étoiles. Tout le monde connaît l'identité du modèle, bien sûr. Après ces réactions, disons un peu tapageuses que je vous ai décrites, le modèle Virginie Gautreau arrive en trombe accompagné de sa maman, ce qui est intéressant, dans l'atelier du peintre, pour lui réclamer, à corps et à cri, c'est le cas de dire, de décrocher le portrait du salon et Sargent refuse. Il tient à défendre, en fait, son œuvre. Ce sera la fin de leur relation. Elle essaiera ensuite d'essayer de se repositionner dans le monde parisien, mais en fait, n'y arrivera pas véritablement. Et c'est vrai qu'il va garder ce tableau avec lui toute son existence. Il le met très en avant dans son atelier, sur les quelques photographies qu'on a de lui-même dans son atelier. Donc, il peint aux côtés de cette grande toile de Madame X. Et on sait qu'il va le garder quasiment jusqu'à ces dernières années, où lorsque le Metropolitan Museum de New York essaye de le racheter, en fait, il va négocier pour que, justement, le nom de la femme qui avait posé disparaisse. Et c'est lui qui impose au Metropolitan d'appeler le tableau Madame X.
Vous vous souvenez sans doute de Rita Hayworth dans Gilda de Charles Vidor, 1946. Ben, regardez sa robe et peut-être que vous la reconnaîtrez.
So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as you. Blame on me. Name did a dance called the Hitchy Crew. That's the thing that slew Magoo. Put the blame on me, boys. Put the blame.
Madame X, peinte par Sargent, si blanche dans sa robe si noire et qui se détache, Emmanuel Retailleau, sur un fond qui est uniformément lui aussi brun.
Oui, alors c'est ça qui est aussi intéressant dans ce tableau, c'est qu'on parle de tableau mondain, de portrait mondain, mais en même temps, le cadre, en fait, est très peu spécifié. Est-elle chez elle? Est-elle dans le hall d'une maison se rendant au bal? Ce guéridon donne presque l'impression d'être un guéridon de théâtre, quasiment hors sol, si on peut dire. Alors, ça m'inspire deux réflexions. D'abord, le fait que ça s'inscrit justement dans cette histoire de la Parisienne en peinture, puisque 10 ans auparavant, deux peintres majeurs, à savoir Renoir et Manet, ont peint chacun un tableau intitulé « La Parisienne ». Donc à une époque où précisément ce label est un signe de modernité en peinture et qui repose exactement sur le même principe, c'est-à-dire que le fond n'est pas du tout spécifié, il est neutre, il est abstrait, ce qui permet d'extraire le type finalement de son environnement social. Mais on voit aussi dans ce tableau finalement une amorce d'évolution vers l'abstraction, parce que là on a des masses de couleurs extrêmement du noir, du marron, du blanc et il s'en faut de peu, en fait, pour que le chaînon d'après, c'est effectivement un tableau abstrait, en fait.
Il faut dire, Isabelle Gadouin, que l'effet de révélation de cette exposition au musée d'Orsay, c'est quand même de découvrir un peintre d'une grande variété de sujets, pas tant que ça, on va y revenir, car il est un peu enfermé dans sa fonction de portraitiste, mais il cherche à faire d'autres choses. Mais en tout cas, de style, de touche, c'est très intéressant ce que dit Emmanuel Retailleau, cette avancée vers le monochrome. On pense aussi à Pozzi dans son intérieur. Alors lui, il est tout rouge, et son habit et le fond est rouge, et on voit pas ce qu'il y a d'intérieur, au fond, dans cette scène de théâtre également.
Oui, oui. Il y a énormément de choses dans ce que vous venez de dire, mais je crois que c'est très, très bien perçu, en fait. Bizarrement, ce tableau est à la fois très révélateur et assez atypique de ce que fait Sarah John de façon générale. Il est beaucoup, on sait qu'il a énormément travaillé, retravaillé, c'est un peintre qui est assez obsessionnel, hein. Il est extrêmement, il a une discipline de fer, même s'il peut aussi donner une impression d'une grande virtuosité, d'une très très grande facilité, il est très très doué, mais il est aussi, c'est vraiment un travailleur acharné. Et on sait qu'il a beaucoup retravaillé ce tableau, avec le résultat qui est que il nous fournit ici quelque chose qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus léché, oui, beaucoup plus poli que ce qu'il fait d'habitude, où souvent, et je trouve que moi personnellement, c'est ce qui fait le charme de certains de ses tableaux, où il met trois coups de brosse en bas d'une robe pour signifier un jupon qui dépasse. Il le fait de façon très très désinvolte. On n'a pas du tout ici cette désinvolture qu'il a plus tard, et on voit que c'est aussi parce que le sujet lui tient à cœur et qu'il veut vraiment il le prend comme un défi, véritablement. Il est allé chercher Madame X, et vraiment c'est pour lui le défi de présenter au salon quelque chose de neuf. Alors c'est vrai que le fond est assez étrange, c'est un fond très très neutre. Lorsqu'il produit des pièces de commande, en fait, il représente les gens chez eux facilement dans des intérieurs où on a des tableaux sur le mur, où on les voit posés dans des bergères à la Louis XV ou la Louis XVI. Enfin, ce sont des intérieurs qui sont des intérieurs très très cossus, qui ont aussi une raison de figurer sur le tableau. Là, effectivement, il a une sorte de, une présentation assez austère qui ramène toute la lumière sur la blancheur de la peau, effectivement.
Oui, il y a cette austérité. Il faudrait peut-être en parler aussi en historienne des féminismes et des sexualités, comme vous, Emmanuel Retailleau. Moi, ce qui me frappe beaucoup, quand même, c'est ce contraste presque triste entre cette posture si impressionnante mais si froide quand même, et l'extraordinaire portrait qu'on voit aussi à Orsay qu'il fait de son ami Vernon Lee. Alors là, il dit que la pose a duré 3 heures, c'est flamboyant et virtuose la touche, et puis on voit cette femme extraordinaire, extraordinairement libre, Emmanuel Retailleau, c'est une féministe lesbienne, théoricienne de sa propre émancipation. C'est quand même un peu triste de voir cette Madame X enfermée dans son image, non ?
Ah oui, il y a une tonalité du tableau, une tonalité globale qui est quand même très sombre et même mortuaire, parce qu'elle est blanche, mais c'est une blancheur presque cadavérique à certains égards. Et par là, elle évoque une autre figure qui est en train d'émerger à ce moment-là, qui est celle de la femme fatale, en fait.
Oui.
La goule, la femme, dont la sexualité est à la fois débordante et menaçante, et qui est un piège à homme. Je pense qu'il a transcrit quelque chose de cet ordre.
Quelque chose de ça. Alors, je ne sais pas si je l'avais aussi négatif que cela. Il y a quand même vraiment quelque chose de fascinant. Je pense que c'est le rapport à la statuaire grecque aussi, en même temps, qu'on voit se profiler là. Le Metropolitan qualifie ce tableau de Mona Lisa of the Metropolitan Museum. Donc c'est vraiment la Joconde des Américains, en fait, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui se distingue assez de ce qu'il fera plus tard avec beaucoup plus de liberté, en fait.
Mais même, il y a d'autres toiles qui sont exposé à Orsay où Virginie Gautreau est portraiturée. Il y en a une notamment où elle tend le bras.
Celle-là est extraordinaire. C'est un plus petit format. C'est Virginie Gautreau levant son verre. Et donc là, il joue. Elle est assez aux antipodes, en fait.
Elle est toujours de profil, hein, parce que
elle est toujours de profil. Elle est fascinée par son nez. Il est toujours amoureux de ce profil. Donc là, c'est même quasiment une sorte de profil perdu un peu par-dessus l'épaule. Mais elle est dans une scène beaucoup plus intimiste où on voit juste le rayonnement de la fenêtre. Elle a arrière-plan crayonné de manière extrêmement rapide, ça pourrait quasiment être une sorte de suggestion de lanterne japonaise, et elle lève son verre et le tableau est tout en effet de dilution, de transparence, d'une sorte de moelleux, je dirais, du traitement. Elle porte sur les épaules une sorte de... On a même du mal à identifier le vêtement, hein, mais un vêtement extrêmement léger, de tulle, de voile, de mousseline, de je ne sais quoi, mais qui est traité entièrement en transparence, et il y a là, avec les fleurs sur la table, avec juste quelques petites esquisses, quelques coups de brosse un peu larges. C'est un tableau qui me semble l'exact inverse, justement, le beau monde et son revers, l'exact inverse de son tableau en pied.
Sur cette question-là, justement, Emmanuel Retailleau, intéressant le début de l'exposition d'Orsay, on voit bien un regard un peu... quand même au mot érotique sur certains modèles masculins. Là, Sargent, on a quand même le sentiment, comme beaucoup, qu'il a peur de la nudité féminine.
Oui, alors le tableau introduit une certaine distance. Elle attire et elle éloigne en même temps. Mais il me semble qu'il y a un mot-clé quand même pour le caractériser. C'est aussi une représentation de l'élégance. Je ne sais pas si les contemporains l'ont perçu comme tel et ont utilisé le terme. Mais en tout cas, cette notion d'élégance, qui est d'ailleurs extrêmement difficile à définir, elle est très précocement une des facettes essentielles de la parisienne. Et c'est pas seulement, bien sûr, le fait d'être à la mode ou d'avoir de jolis vêtements ou d'être coiffé exactement comme il faut, c'est le fait de savoir, c'est l'espèce d'aura qui émane de toute la personne. Et c'est peut-être ça aussi qui choque, l'idée qu'une américaine peut-elle être véritablement élégante? Voilà la question qu'on puisse poser.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a eu aussi des défenseurs, bien sûr, du tableau. Mmh. Hein. Et des gens, vous disiez, on a du mal à la définir. Des gens qui disaient, oh, elle est étrangement épatante. Ça, c'est une citation. Et il montre ce tableau un peu plus tard à Isabella Stewart Gardner, qui est cette grande, grande mécène américaine qui créera, sur la base de sa collection, le musée Gardner de Boston. Et Isabella Stewart Gardner est tellement fascinée par cette pose qu'en fait, elle voudra faire son propre tableau exactement dans la même robe fourreau très très fine comme ça, et d'une certaine manière elle contribue à lancer la robe fourreau noire. C'est une robe de Worth qui est portée par Isabella Stewart Gardner dans ce second tableau, qui lui ne pose plus de problème du tout, même s'il est très échancré à vrai dire aussi. Et donc effectivement la robe va poursuivre son chemin malgré le tableau.
La notte sembra in giro ed ubriaca. Non sai quel che fai, non sai quel che dici. Perché, perché sei così? Adesso, adesso, adesso sei finita, signora. Madame X.
C'était les Wirtschaftswunder en 1982, Madame X, bien sûr, vous les avez reconnus. Et d'abord vous, Eleanor Chaline, bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas ce qui se passe avec les sociétaires en ce moment. Vous venez tous avec des cartes postales, hein, vous aussi, hein, c'est ça.
Moi
c'est
aussi,
ça.
Je voulais mes cartes postales.
Bah oui, bah vous les avez, allez.
Ça y est.
Oui.
D'accord. Alors, à côté de cet imaginaire de la parisienne qui n'en est pas une, élégante, aristocratique à la mode, mondaine, qui est cet imaginaire forgé par Sargent, il existe un autre imaginaire aussi en plein essor dans ces années 1800, entre les années 1880 et 1900, où à l'élite répond le populaire, à l'oisiveté le travail. Et cet imaginaire est aussi consommé visuellement, sous forme de dessins, de peintures, d'estampes, de photographies, mais surtout de cartes postales.
Voilà.
Et donc je voulais vous parler de ces autres figures de parisiennes, plus modestes, même les images sont plus modestes, elles ne sont pas du tout monumentales, à partir d'un livre paru en 2022, un livre de Julia Trenne, pardon, Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900 aux éditions de l'EHESS. Et à ces femmes de la haute société, dans leurs salons, dans leurs intérieurs, répondent d'autres figures en abondance, dans la rue, dehors, au travail. Comme le montrait Michel Perrault dans un article de 1997 qui s'intitulait « Le genre de la ville », les femmes du peuple sont beaucoup plus présentes dans la rue et les espaces publics qu'on ne le croit. Et même si la ville moderne a mauvaise réputation pour les femmes seules, le développement de la domesticité, mais aussi du travail de rue, fait que les femmes sont assez présentes. Beaucoup de femmes travaillent à l'extérieur du foyer et en réalité, c'est plutôt un espace de libération. Voilà, elle a cette phrase, les femmes du peuple circulent, utilisent la ville comme une forêt, un territoire de libre parcours où trouver leur subsistance et gagner leur vie. Porteuse de pain, donc je vous en ai apporté,
oui,
ici. Marchande de quatre saisons, marchande de soupe, de café, d'herbes, etc. Tous ces métiers, ces industries dites de plein vent. Ici, vous avez la marchande de soupe. Et Juliette Rennes, elle travaille principalement à partir des photographies, des cartes postales qui représentent ces femmes en train de travailler. Et elle réfléchit dans son livre à ce que la société de l'époque veut et accepte de voir. Et se demande donc comment ces femmes sont représentées et quel type de femmes on représente.
Est-ce qu'elles sont jeunes, vieilles, misérables, souriantes? C'est ça, toutes ces questions en fait.
Voilà, finalement, si on regarde un ensemble d'images, comment est-ce qu'elles sont représentées? Elles apparaissent beaucoup sur ces cartes en tenue de travail, en blouse, en tablier. Elles posent devant des boutiques, elles posent aussi dans la rue. Certaines occupent des métiers qui étaient des métiers de rue traditionnels, qui étaient menacés à la fin du 19e. Donc tout ce qui était les marchandes ambulantes, en fait, marchandes de fleurs, de comestibles, de café. Mais aussi des nouveaux métiers de rue qui se développent à cet âge publicitaire qu'est la fin de siècle, comme les colleuses d'affiches. Les colleuses d'affiches,
oui,
qui sont moins nombreuses que les colleurs d'affiches, mais qui existent quand même dans une ville qui est en voie de modernisation. D'autres adoptent ce qu'on appelle à l'époque des métiers d'hommes et donc un vestiaire aussi, des vêtements qui vont avec, comme les femmes qui sont cochées et comme on dit à l'époque, cochères. On va commencer à les regarder, à les photographier à partir du début, tout début du XXe siècle. Et elles apparaissent soit, comme vous les avez ici, en studio, dans leur tenue, en pied, avec leur nom. C'est très rare qu'on ait les noms sur des cartes postales, mais là, on a leur nom. Ou elles apparaissent avec leur voiture, avec leurs chevaux, les rênes à la main. Et ces cartes postales, bien sûr, elles entretiennent un goût pour le pittoresque, parce que ces métiers de rue, on préfère les voir représentés, finalement, que dans la rue. Un goût du pittoresque urbain, mais elles occultent aussi, et c'est ce qui fait réfléchir là sur la réalité de ces métiers de rue, elles occultent la pénibilité du travail, le fait de ce que ça veut dire de travailler dans la rue. Et donc, il faut les regarder aussi avec cette dimension en tête. Et je pense, je voulais en parler, à un beau petit livre de Michel Audin, qui vient d'ailleurs de mourir, Rue des Partants, qui est sorti en 2024, dont le point de départ est une photographie de Robert Doisneau, prise dans le quartier de Ménilmontant, de femmes qui travaillent au lavoir. Donc beaucoup de ces supports livrent à la vue pour répondre, est-ce qu'elles sont jeunes, vieilles, plutôt des jeunes femmes souriantes, même si on va aussi trouver dans ce répertoire des femmes plus âgées, des femmes fortes, voire des vieillardes, des sortes de matrones aussi des rues, et notamment des halles de Paris.
On les trouve dans cet espace public. Ce livre, Métier de rue de Juliette Rennes, à mon sens, il permet de penser ces autres représentations de la parisienne, ou plutôt des parisiennes, où tout contraste avec le monde qui est peint et dépeint par Sargent, et qui se craquelle aussi parfois, peut-être qu'on pourra y revenir. Je regardais dans votre ouvrage, quand il va à Venise, dans les années 1880, il voit aussi peut-être autre chose. Voilà, cet imaginaire des cartes postales et des photographies, il se déploie entre les années 1880 et les années 1900. Il est contemporain de ces tableaux et c'est, je trouve, assez intéressant oui. de les regarder en parallèle. Parce que ça crée une distorsion, évidemment, énorme. Mais justement, ça permet peut-être aussi de penser ce qu'on voit dans ces tableaux à lui et ce qu'on voit des Parisiennes ou de la Parisienne par contraste à ce qu'on peut par ailleurs voir dans la rue, représenté, là aussi, mise en scène par les cartes postales.
Oui, c'est la mise en regard. Emmanuel Retailleau, c'est ce que vous faites là, exactement. Là, vous êtes, vous regardez en même temps les cartes postales amenées par Léonore Chaline et Sargent.
Surtout que là, je tombe sur la marchande de soupe aux Halles, donc le contraste oui. avec Madame Gautreau est évidemment maximal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, la petite Parisienne modeste, la petite travailleuse des rues, elle a fait très précocement partie de la mythologie de la Parisienne. Puisque jusqu'à l'avènement de la photographie et à sa banalisation, elle fait l'objet donc de dessins, de croquis, qui justement se répandent un peu partout avec la presse et la littérature de masse. Et précisément, le type de la Parisienne est un type qui se veut fédérateur, qui est censé rapprocher et rassembler toutes les classes. La première Parisienne dessinée, en quelque sorte, c'est la Grisette de Gavarni, dans les années 1840, que Baudelaire prend aussi en exemple comme premier pas vers cette modernité artistique. Mais là, avec la photo, évidemment, alors il y a mille et une manières d'utiliser la photo. La photo n'est pas par essence forcément un art réaliste, mais on peut aller beaucoup plus loin dans le réalisme. La photographie, ici, se dissocie du type idéalisé, mais qui continue de courir à la même époque, parce que le peintre Jean Béraud, justement, qui est absolument contemporain de Sargent, c'est quelqu'un qui représente les Parisiennes dans tout leur éventail
oui,
social,
et
qui représente exactement les mêmes, voilà, la femme cochère, la vendeuse de rue, la petite marchande de violettes, mais sous une forme idéalisée et non pas sous une forme réaliste.
Oui, Léonore Chaline, pour en revenir à Sargent, justement, vous attiriez notre attention sur ces autres tableaux qui sont vus aussi à Orsay, notamment ceux qui ont été peints entre 1880 et 82 à Venise. Là, on est dans la rue. On est même dans des ruelles un peu sombres.
Ruelles un peu sombres. Femmes, on ne sait pas quelle est exactement la situation, mais on peut imaginer des scènes de racolage parfois. Il y a des scènes dans des intérieurs. Enfin, je ne sais pas. C'est une question. C'est une vraie question.
Il est difficile de le dire, mais Isabelle effectivement, Gallon. C'est exactement ça. Il a. Alors, c'était de fait l'idée dominante de notre livre que d'essayer de montrer le beau monde et son revers, et le fait que c'est méconnaître Sargent que de n'en lire que les portraits mondains, parce qu'en fait le reste de sa production est absolument monumental. C'est vraiment quelqu'un qui a une œuvre, voilà, il y a plus de 3000 œuvres dans le catalogue raisonné en 9 volumes, voilà. Donc ce ne sont pas les quelques centaines de portraits mondains qui permettent de le définir tout entier. Et le fait est que dans ses voyages, donc on en a peu parlé, mais il est extrêmement cosmopolite, il passe sa vie à se déplacer énormément en Europe, mais il retourne aussi aux États-Unis, visiter d'une certaine manière le pays qui est celui de ses ancêtres. Et il a spontanément l'œil pour ses petits métiers des rues, à Venise. Il représente les petites marchandes d'oignons dans des tableaux qui sont aussi des tableaux très très esthétiques en fait.
Ah oui, c'est très beau.
Il y a une grande grande beauté.
De Et vous qui êtes une historienne aussi de l'orientalisme victorien, je l'ai dit, il y a quelques tableaux qui sont absolument
magnifiques, très très beaux et qui ne versent pas complètement dans l'orientalisme facile, l'exotisme, le pittoresque. Il sait faire autre chose. Il y a ce tableau absolument extraordinaire, Fumée d'ambre gris, où il représente une orientale en train de se parfumer à l'ambre. Et c'est exactement l'inverse de ce que ferait Ingres et ses odalisques offertes dans le bain turc. Donc il a quand même un œil. Je crois qu'il se sent très rapidement enfermé par ses portraits mondains. Et il a vraiment un intérêt pour les enfants des rues, ces échanges voyage furtif sur un pas de porte à Venise. On
et
ne
il
sait
le
pas
fait
exactement.
Qu'ailleurs, il le fait jamais à Paris, ça.
J'ai pas connaissance qu'il le fasse à Paris. Il le fait beaucoup dans ses images de voyage. Il y a ça en Espagne, il y a ça en Italie.
Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est intéressant et que je comprends en vous écoutant, Éléonore Chaline, c'est que on a fait le portrait aussi d'un peintre qui a été oublié en France parce que bah, finalement, il rentre pas dans le grand récit de l'histoire de l'art et avec ses cases, voilà, il est loin de Degas, il est loin de Manet, mais et Degas et Manet peignent des domestiques parfois, Éléonore Chaline, et là, il n'y en a pas.
Oui, c'est ça, ça m'a frappé en regardant et alors, le catalogue et le livre, mais peut-être que justement, il y en a.
En cherchant bien, on trouverait, en fait. C'est vrai que vous avez prononcé le nom de Manet à un moment et il est très, très influencé par toute cette école-là, il regarde à travers Manet vers toute l'école espagnole de Velázquez, etc., qui lui enseigne la valeur de ces noirs très très puissants. Il est très pudique envers le corps féminin. Il y a un nu féminin que l'on connaît de lui, de dos, typiquement avec cette sorte de regard par-dessus l'épaule. Il a du mal à regarder le corps féminin. En revanche, on a retrouvé des nus masculins de lui. Et dans ce domaine-là, il s'aventure vers, en particulier, un liftier noir américain qu'il rencontre aux États-Unis, qu'il va représenter de manière, cette fois, extrêmement frontale, agenouillé. Et donc, il a aussi quand même voilà, cet intérêt pour ces types de fêtes aussi assez méditerranéens. On en voit des images dans l'exposition, hein, brun, grand, ténébreux, à la plastique parfaite. Oui. Donc, mais il regarde aussi ces gens-là.
Mais ce n'est pas qu'une question d'esthétique, ce n'est pas seulement une question même de désir, Emmanuel Retailleau, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, la notion de monde, de ce que c'est effectivement qu'un univers mondain, avant Proust, change quand même. Et là, avec Sargent, on voit bien qu'on est entre deux mondes.
Oui, on est entre deux mondes, mais en fait, la société parisienne brasse un peu les milieux dès le début du 19e siècle, en fait. C'est analysé aussi comme un produit de la Révolution française qui a rebattu les cartes, qui a détruit les frontières étanches entre les classes sociales, ou en tout cas avec l'aristocratie. En même temps, Sargent va peu, autant que je le sache, je ne suis pas spécialiste de son œuvre, mais il va quand même peu vers le demi-monde ou les bas-fonds. Ce que font, en revanche, Manet et Toulouse-Lautrec au même moment. Donc, de ce point de vue-là, il reste moins radical, en fait, à la fois dans son style et dans ses choix de modèles.
Hein. Quant à la parisienne comme mythologie sociale, celle dont vous avez écrit la longue histoire culturelle, Emmanuel Retailleau, à ce moment-là, en cette fin de siècle, elle a encore de beaux jours devant elle, mais elle va se transformer, c'est évidemment, culturellement.
Alors, elle a encore de beaux jours devant elle, mais dans les années 1880, c'est déjà un peu un héritage, c'est déjà un peu de l'ordre du recyclage. Parce que le temps fort de l'émergence de la parisienne, en fait, c'est la période romantique, c'est les années 1840, et puis le Second Empire.
Du point de vue publicitaire.
Oui, alors là, elle va véritablement proliférer, et puis on l'utilise pour les guides touristiques, etc. Donc elle a effectivement de beaux jours devant elle. Mais comme signe du moderne, comme symbole du moderne et de la nouveauté, elle a déjà connu sa période de gloire, en quelque sorte. Elle est déjà sur une pente descendante.
Éléonore Chaline, photographie va changer?
Bah, en fait, je suis assez d'accord. La photographie, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, elle n'est pas si réaliste. Elle est aussi l'articulation de plein de choses et on voit qu'elle peut prendre des formes très différentes. Je pense qu'à la fin du siècle, il se passe quand même quelque chose. Il y a une forme de tournant documentaire et d'un intérêt pour ces métiers de rue au moment où ils vont disparaître, au moment où ils disparaissent. Et une attention quand même au monde social qui n'existait pas tellement avant. Et peut-être qui contrarie la peinture parfois.
Toujours Madame X, mais cette fois-ci, et l'introduction du concert live de Madonna au Portugal en 2020. Bah écoutez, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Isabelle Gadouin, Emmanuel Retailleau et Eleanor Chaline. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Grégory Vallon et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous. In the house of love, I'm Madam X. 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 I'm Madam X. The most controversial thing I have ever done is to stick around. Ladies and gentlemen, welcome to the world of Madam X. We want you to be present and enjoy the journey with us. Let nothing stand between us. And don't forget, none of this is real.